Bienvenue sur France Inter. Nous sommes le lundi 24 août. Très heureux de vous retrouver aussi, Agnès Soubiran. Bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, le pari perdu du PSG. Les Parisiens ont été battus hier soir par le Bayern Munich en finale de la Ligue des Champions. La tristesse des supporters, l'analyse du match, les réactions sportives. Après les autres titres, Agnès.
Alors que le nombre de cas de Covid-19 ne cesse d'augmenter, nous verrons les précautions prises dans les vignes de Champagne pour éviter de nouveaux foyers de contamination. Les restos courte paille, enseigne typiquement française, sont à vendre. Une impressionnante chaîne humaine hier entre la Lituanie et la Biélorussie. Et puis des monstres qui font même pas peur au musée d'Orsay.
Et à la une de ce 7-9 également, à 7h15, premier volet d'une série de zooms exceptionnels consacrée aux attentats de janvier 2015, à une semaine de l'ouverture du procès aux assises spéciales de Paris. Ce matin, retour sur ces trois journées tragiques. Ce sera avec Sophie Parmentier. Les invités d'Inter ce matin, 7h50 Léa.
Ça y est, on entre dans le dur à une semaine de la rentrée. Où en est-on vraiment des contaminations et des hospitalisations? La deuxième vague arrive-t-elle à l'horizon? Faut-il être très inquiet ou raisonnablement confiant? On fait le point avec la chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine. Karine Lacombe sera avec nous à 7h50.
A tout à l'heure Léa. 8h20, nous recevons dans le grand entretien de la matinale l'écrivain Alain Mabankou. Il publie Rumeurs d'Amérique. C'est aux éditions Plomb. Le standard est ouvert. Vos questions dès maintenant. 01 45 24 7000.
France Inter. Pour les irréductibles, cette défaite n'est qu'une étape et la victoire viendra très vite. Pour les autres, c'est une cruelle déception. Le PSG a donc été battu hier soir en finale de la Ligue des Champions 1-0 par le Bayern Munich. Un but inscrit, ironie du sort, par un Français formé par le club parisien, Kingsley Coman. Alors, à l'issue de la rencontre disputée à Lisbonne, les supporters parisiens qui avaient fait le déplacement au Portugal ont tenu à soutenir leurs joueurs coûte que coûte. C'est un reportage d'Emma Sarango.
Une seconde auparavant, ils étaient abattus, le visage entre les mains, les larmes au bord des yeux. Et pourtant, en se regroupant devant l'hôtel des Parisiens, les supporters retrouvent leur voix et leur chant. Alexandre a presque déjà oublié la déception.
Pour moi, il n'y a rien à dire. Hein. C'est le foot. Hein. Ils ont fait comme ils ont pu. Hein. C'est un grand exploit que Paris a fait. Hein.
À ceux qui doutent encore, ce supporter un peu enivré crie l'histoire du club dans un mégaphone.
Il y en a qui ont des étoiles. Ils ont plus d'un siècle. Nous, on n'a que 50 ans. Soyez supporters parisiens.
Et quand arrivent les joueurs, on retrouve l'hystérie des soirs de victoire lisboète. Une communion qui n'est que le début d'une grande aventure, veut croire Marcus.
C'est la défaite, ça nous sert à apprendre. Ils ont pris de l'expérience. Dans le futur, ils vont tout casser, c'est sûr. Ils s'arrêteront jamais.
Et il y a un homme que Stéphane voulait particulièrement remercier ce soir. C'est le capitaine brésilien Thiago Silva qui jouait son dernier match avec le PSG.
C'est un homme qui a marqué de son empreinte la défense parisienne, le club aussi. Donc c'est vrai que ça va faire un grand vide et on aurait aimé que ça se termine en apothéose pour Thiago et puis surtout pour le club.
Les Parisiens qui devraient être de retour en France en milieu d'après-midi, accueillis probablement par tous ceux qui n'ont pas pu les soutenir sur les bords du Tage.
Et l'ambiance était beaucoup plus tendue au même moment hier soir sur les Champs-Élysées à Paris avec des échauffourées entre supporters et forces de l'ordre. Bilan, plusieurs véhicules incendiés, des vitrines brisées, quelques magasins vandalisés et 148 personnes interpellées. Nous y viendrons en détail dans le journal de 7h30. Alors cette finale de Ligue des Champions, le club parisien en rêvait après plusieurs échecs. Le huitième de finale remporté mi-mars contre Dortmund, puis un parcours sans faute dans une compétition chamboulée par l'épidémie de Covid-19 semblait de bon augure. Bonjour Cédric Guillou.
Bonjour Agnès.
Alors que s'est-il donc passé hier soir ?
Eh bien déjà, le Paris Saint-Germain est tombé sur une équipe remarquable, très forte, le Bayern Munich. Alors on pourrait penser qu'il n'y a pas tant d'écart que cela entre les deux formations, mais hier soir, eh bien on s'est rendu compte que le fossé était encore important entre le PSG qui disputait sa première finale en Ligue des Champions et le club allemand qui a remporté pour la sixième fois cette compétition. Il y a notamment plus d'expérience, des grands rendez-vous du côté de Munich et puis les joueurs attendus du côté allemand ne se sont pas forcément loupés. On a notamment vu un joueur qui a écœuré les Parisiens, c'est le gardien Manuel Neuer qui a été décisif dans ses cages parce que du côté du Paris Saint-Germain, eh bien, on a été plombé par ses leaders et notamment par ceux que l'on surnomme les trois fantastiques devant, Neymar, Mbappé et Di Maria. Ils sont tous les trois passés au travers de leur finale. Ils n'ont pas réussi à bouleverser la stratégie défensive du Bayern Munich pour les contrer et sans un bon match de ces joyaux et avec donc donc un grand Bayern en face, et bien le PSG n'a pas réussi à aller au bout de son rêve, à gagner cette Ligue des Champions.
Merci Cédric Guillou. Et parmi celles et ceux qui continuent d'y croire, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui a assisté hier soir à la finale au stade de la Lousse.
Bah écoutez, on a beaucoup vibré parce qu'il y avait beaucoup d'occasions pour Paris et puis une déception, mais une déception relative à la fin parce que je crois qu'il faut retenir vraiment du positif pour nos deux équipes françaises, l'OL qui arrive en demi-finale et puis le PSG qui fait sa première finale. C'est très positif parce que c'est vraiment une marche que le PSG et la France franchit aujourd'hui et je suis sûre que la prochaine fois ce sera gagnant. Le PSG et l'OL se sont battus aussi, pas seulement pour eux, pour leur club, mais aussi pour faire figurer la France de manière plus conséquente à ce niveau européen. Et avec eux, c'est vraiment tout le football français, je pense, qui est gagnant. Et nous allons suivre aussi avec grand intérêt la compétition, cette même compétition pour les filles, avec une demi-finale PSG-Lyon mercredi, et puis une finale où, du coup, il y aura forcément un club français dimanche.
Voilà, les filles, donc, pour relever le défi dimanche prochain pour la finale dames de la Ligue des Champions.
Il est 7h07, Agnès. Les mauvais chiffres de l'épidémie de Covid-19 en France.
Avec 4897 cas supplémentaires enregistrés au cours des dernières 24 heures, un record depuis la fin du confinement début mai. Actuellement, une trentaine de foyers de contamination sont recensés, dont un au sein d'un village naturiste au Cap d'Agde. Au début de l'été, les saisonniers ont été particulièrement touchés par le virus, d'où les précautions prise à présent par les viticulteurs en Champagne où les vendanges viennent de commencer. C'est un reportage de Léo Técher.
Dès le début des vendanges, réunion des pressureurs de la coopérative de Villevenard avec leur président.
Si j'attrape le Covid, je suis capable de le refourguer à la moitié de la Champagne. Donc il faut quand même qu'on soit prudents tous.
Les consignes sont claires pour Emmanuel Pietremont.
Distanciation, distanciation, distanciation.
Lui-même viticulteur n'accueille cette année que 28 vendangeurs contre une quarantaine d'habitude.
Généralement, ils viennent à 2-3, donc on les laisse une fois que les groupes sont formés. Des chambres de 4, on est passé à 3. Des chambres de 3, on est passé à 2.
Pendant le repas, ils sont en quinconce sur les tables.
Voilà, pour essayer de garder un mètre entre chaque personne, servir l'assiette, sinon avant on servait au plat. Il faut balayer toutes les habitudes et revoir complètement la copie.
Dans les vignes, un seul cueilleur par rangée. Bernard, lui, est porteur.
Ce matin, j'ai porté la visière pendant 2 heures. J'avais transpiré beaucoup dessous, j'avais de la buée, du coup j'ai pris le masque ensuite. Avec le masque, j'ai du mal à respirer par contre, alors je m'isole et je l'enlève et je respire.
L'Agence régionale de santé a recommandé toutes ces mesures aux viticulteurs et mis en place des campagnes de tests dans plusieurs communes du Champenois.
C'est les piqueurs que vous faites ?
Non, c'est pas une piqueur. Dans le nez, monsieur.
Du coup, je vous demanderai de bien mettre la tête en arrière. C'est fini.
Véronique Brodard, virologue au CHU de Reims, s'en profite pour un rappel.
Respectez les gestes barrières et mettez le masque. C'est pas que pendant les vendanges, c'est tout le temps, tout le monde. Le virus circule.
Même dans les villages.
Partout.
Reportage de Léo Técher. Conséquence de cette crise sanitaire, une hausse attendue du nombre de demandeurs d'emploi. Pôle emploi va donc recruter plusieurs milliers de personnes. Et parmi ceux qui s'inquiètent, les 4000 salariés de l'enseigne Courtepaille. Les éventuels repreneurs ont jusqu'à ce soir pour se faire connaître. 4 candidats sont déjà en lice pour sauver cette marque française qui a ses fidèles, comme a pu le constater Adjira Mohamed au Courtepaille de Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis.
Courtepaille, c'est d'abord un concept, la viande grillée.
Courtepaille. On n'a pas inventé le bonheur, mais les grillades qui vont avec.
Et des grands classiques côté cartes.
L'andouillette, oui, elle est extra, extra.
Ajoutez à ça un look bien particulier, ces salles rondes avec la cheminée au milieu dans laquelle le cuistot fait griller la viande. On est comme à la maison, selon Daniel.
C'est rapide et convivial et c'est bon en général. Dès qu'on a l'occasion, c'est là que l'on vient.
Et puis il y a le côté pratique pour James et ses collègues.
On a juste le trottoir à traverser, c'est un peu comme la cantine, voilà.
Sans oublier le rapport qualité-prix.
Ça reste entre 10 et 15 euros.
Avec le confinement, le chiffre d'affaires de l'enseigne a chuté de 40% et Courtepaille n'a pas obtenu de prêt garanti par l'État, rappelle la direction. Mais côté syndicat, on pointe aussi du doigt un manque d'investissement, même avant la crise sanitaire. Nabil Azouz est secrétaire fédéral de Force Ouvrière.
La digitalisation est sans très en retard. L'immobilier, tout ça, c'est des investissements pour le son, en quelque sorte. C'est des remodels, comme il fait McDonald's, comme il fait Burger King. Ça veut dire qu'on ne s'adapte pas à la demande de la clientèle.
Pourtant, plusieurs restaurants, dont celui de Rosny, ont été rénovés. Le groupe s'est aussi lancé dans la livraison à domicile. Autant de points qui prouvent, selon la direction, que Courtepaille a encore un avenir.
Reportage d'Adjira Mohamed au Courtepaille de Rosny-sous-Bois.
France Inter, 7h10. Nouvelle démonstration de force, Agnès, de l'opposition, hier en Biélorussie.
Des dizaines de milliers de personnes rassemblées dans les rues de Minsk, drapeaux blancs et rouges à la main et scandant le mot liberté. 2 semaines que les opposants dénoncent la réélection d'Alexandre Loukachenko. Moscou. Et ils ont reçu hier le soutien de leurs voisins lituaniens qui ont formé une chaîne humaine de plus de 30 kilomètres entre la capitale de la Lituanie, Vilnius, et la frontière bélarusse. Au Mali, la junte qui s'est emparée du pouvoir la semaine dernière a annoncé une transition de 3 ans. Le pays sera dirigé par des militaires. Seule concession, la remise en liberté du président Keïta qui pourra rester chez lui à Bamako ou se rendre à l'étranger pour être soigné. En bref, encore aux États-Unis, les incendies en Californie ont détruit près de 300 000 hectares, obligé 240 000 personnes à abandonner leur maison. Et la situation reste inquiétante. Nous y reviendrons dans le journal de 8 heures. Et puis sur le plan politique, la convention républicaine qui doit officiellement désigner Donald Trump comme candidat à la présidentielle de novembre prochain débute ce soir à Charlotte en Caroline du Nord. Et on termine avec l'histoire d'un homme qui a conquis les enfants avec ses monstres. Pourtant, rien ne prédestinait Léopold de Chauveau à devenir un artiste, mais sa vocation profonde a fini par s'exprimer au début du XXe siècle. Sculpture, dessin, histoire pour enfants, ces monstres s'exposent désormais au musée d'Orsay. Jacqueline Pétrose.
Tordus, difformes, étonnés, tristes, un peu effrayants pour certains, les monstres de Léopold Chauveau sont touchants et fascinants. Chauveau est médecin, mais par la volonté de son père. Et pour échapper à ce métier qu'il n'aime pas, il se met à sculpter de petits personnages étranges et singuliers. Leïla Jarbouet, co-commissaire de l'exposition.
C'était vraiment quelque chose qui était en lui depuis son enfance. Ce qui le fascinait notamment dans les monstres, c'est qu'ils étaient accolés à la beauté, à l'harmonie, notamment dans les cathédrales et les églises médiévales. Et ça, ça l'a beaucoup marqué. Et il évoque aussi le monde merveilleux des livres d'enfance, les fables de La Fontaine qui l'ont beaucoup marqué, les contes de Perrault. Donc il aimait cet univers de l'imaginaire où les animaux parlent, où on rencontre des géants, des ogres. Et il renverse un peu tout cela, il se l'approprie et il crée son propre univers.
Pour les enfants, Léopold Chauveau a écrit des contes d'une conception très moderne. Leïla Jarbouet.
Les enfants sont vraiment considérés comme des alter-ego, comme des amis, des complices, et pas du tout comme des personnes inférieures à qui inculquer quelque chose sans réciprocité.
Apprécié par Georges Lacombe, Cocteau, Gide et Martin Dugard, anticolonialiste et féministe, Léopold Chauveau a créé un monde original, profond et ludique. Dessins, sculptures, aquarelles sont vraiment des trésors à découvrir, sans oublier les histoires.
Histoire de limace. C'était un chien. Long corps monté sur courtes pattes.
Au pays des monstres, donc une expo au musée d'Orsay à découvrir en famille jusqu'au 13 septembre.
Merci Agnès Soubiran.